Nicosie, la dernière capitale divisée d'Europe. Voilà comment la plus grande ville de l'île de Chypre, deuxième capitale au monde partagée par un État et un pseudo-État, est surnommée. Reprenons notre histoire de Chypre à 1974, à l'opération militaire turque. Le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kurt Waldheim, s'est rendu sur place pour essayer de pousser chaque partie à la négociation. Souvenons-nous qu'à ce moment, les Chypriotes turcs sont réunis dans une entité copiant les institutions de la République de Chypre dans l'idée de réintégrer cette dernière à terme. Mais la situation se fige, avec la présence turque mais aussi le blocage des Chypriotes grecs. Du coup, le 13 février 1975, 12 ans après le début des violences intercommunautaires, après un coup d'État grec en République de Chypre et une opération militaire turque, l'État fédéré turc de Chypre est proclamé. Après une décennie de violences, de meurtres, de viols, de disparitions, etc., chaque côté est à bout de nerfs et de patience. Mais chaque côté n'envisage qu'une île unie. C'est pourquoi les Chypriotes turcs considèrent que leur État est un élément d'une future fédération, d'où le nom État fédéré. En face, la position est plus radicale. Toute l'île appartient qu'à la seule République de Chypre. En 1983, pourtant, les Chypriotes turcs laissent tomber. Le Taksim, ou séparation en turc, est adopté et Rauf Denktaş proclame la République turque de Chypre du Nord, indépendante et turque. La ligne verte est très vite devenue une frontière militarisée, avec d'un côté l'armée turque, de l'autre l'armée grecque et les casques bleus qui patrouillent au milieu. Si de chaque côté le discours officiel prône une réunification à terme, d'ailleurs on peut trouver dans l'actuelle forme de la République de Chypre des places réservées aux quotas des Chypriotes turcs, et il a fallu une réforme constitutionnelle pour augmenter le nombre de Chypriotes grecs sans toucher le nombre de députés Chypriotes turcs qui sont réservés entre guillemets pour les Chypriotes turcs une fois qu'ils réintégreront, encore une fois, la République de Chypre. Du coup, si de chaque côté le discours officiel prône une réunification, c'est seulement si les autres viennent à la raison et viennent de leur côté. Il est clair qu'en fait, le Taksim l'a emporté par la force des armes. La séparation des communautés était perçue comme nécessaire par plus d'un.
You are concerned, you say, gentlemen, at the declaration by the Turkish Cypriot authorities about our independent state. I hope you are equally concerned that one part of a bicommunal government has for 20 years drop the other part of all its rights and has not given them back and does not intend to give them back because they get all these confirmations from you that they are the legitimate government of Cyprus.
La frontière était alors totalement fermée, infranchissable. Les armées se faisaient face parfois à quelques mètres d'écart, encore aujourd'hui d'ailleurs, notamment à Nicosie. Les tensions étaient fortes et l'avenir certain. Il était impossible de fraterniser avec celui qui, quelques années plus tôt, avait volé sa maison, tué son fils et contraint sa famille à s'enfuir. Encore aujourd'hui, le souvenir reste fort parmi les personnes plus âgées. La création récente du mouvement Unite Cyprus Now, en réaction à l'échec répété des négociations, a eu un écho marqué chez une certaine jeunesse chypriote. Celle-ci considère qu'elle est la génération charnière entre les vieux qui ont vécu le conflit de près ou de loin et qui ont encore de forts ressentiments, et les jeunes qui naissent dans une île divisée et qui n'y voient pas d'inconvénients. La peur principale est que si le conflit n'est pas réglé rapidement, il ne le sera jamais, mais cette peur est loin de faire l'unanimité. La séparation de l'île est un fait concret. Les statistiques de passage des postes frontières est une douche froide. Après l'effet de mode et l'envie de revoir son village d'enfance à leur ouverture en 2003, on constate qu'à part quelques travailleurs chypriotes turcs et de nombreux touristes, les passages d'un côté à l'autre ne sont pas une habitude. Le développement du tourisme a toutefois permis non seulement une augmentation du nombre de passages, mais aussi une simplification qui bénéficie petit à petit aux chypriotes. On le voit par exemple avec les jeunes chypriotes nicosiens qui vont dans les bars au nord ou au sud, en fonction de l'humeur, etc. Depuis 2014, tout ressortissant de l'UE n'a besoin que de sa carte d'identité pour passer. Plus besoin d'avoir de visa spécial pour passer au nord, et les troupes turques sont maintenant cachées. Je n'ai pas vu plus de 3-4 soldats turcs au nord, alors qu'au sud, les soldats grecs sont monnaie courante. Les passages sont simplifiés, mais de nombreux problèmes persistent. La République de Chypre refuse de contrôler la frontière sérieusement puisqu'elle ne reconnaît pas son caractère frontalier, malgré les injonctions de l'UE de surveiller l'immigration et surtout le passage des biens et marchandises. Pas d'inquiétude, nous ne serons pas submergés par les quelques dizaines de milliers d'oranges vendues aux pays européens. Bien que Chypre Nord bénéficie de plus en plus de certificats de contrôle et d'autorisations pour exporter vers l'UE, son économie reste tournée vers la Turquie. D'une part, à cause d'une dépendance minutieusement entretenue par Ankara, mais aussi par un manque de possibilités au sud. Lors de la simplification du passage des véhicules à travers la ligne verte, des nationalistes chypriotes grecs se sont mobilisés pour bloquer les camions chypriotes turcs et passer à tabac quelques ennemis. La frontière est encore nécessaire pour tenter d'enrayer la violence. Les barbelés et les patrouilles militaires résonnent sombrement avec les périodes de violence communautaire. Le temps a été figé dans le No Man's Land, où les bâtiments prennent la poussière. Un ami chypriote turc, travaillant pourtant dans des organisations intercommunautaires, m'expliquait l'autre jour qu'il cache le plus possible son identité quand il va au sud, chose qu'il fait pourtant régulièrement. C'est pour ça qu'il a cherché à apprendre le plus de mots grecs, ou alors tout simplement à ne parler qu'anglais. Chaque côté est divisé entre les nationalistes et ceux qui envisagent une vie commune. Commune, mais pourtant séparée.
Après une tentative de coup d'État fomentée par des militaires grecs, le 20 juillet 1974, la Turquie intervient militairement à Chypre. C'est l'opération Attila. En deux jours, elle occupe le nord de l'île, puis impose la partition du pays. C'est l'entrée de Chypre au sein de l'Union européenne qui a permis un premier dégel.
En fait, la situation s'est débloquée dans les années 90. Avec la demande d'adhésion à l'UE de la part de la République de Chypre en 1990, au nom de toute l'île, et son adhésion formelle en 2004. Tout commence dès 1972, quand Makarios III signe un traité d'association avec la communauté européenne. Ce traité est suivi, malgré le conflit, par un avis positif en 1978 d'une union douanière qui se met en place entre 1987 et 1998. En fait, la division de l'île et le conflit n'a fait que renforcer la reconnaissance de la République de Chypre comme un partenaire légal, organisé et surtout digne de confiance. Un gros changement s'opère en 1998. Le président chypriote grec d'alors, Glavkos Kleridès, invite les chypriotes turcs à participer aux négociations d'adhésion. Notons d'ailleurs que Kleridès a été élu deux fois sur une plateforme nationaliste, contre le dialogue. Mais il a changé à la fin de son dernier mandat. Malheureusement, sous la pression turque et le refus de Denktash, la main tendue de 1998 n'est pas acceptée. En 2000, le Conseil européen décide de pousser Chypre aux efforts nécessaires à une réunification claire dans la perspective d'avoir une île unie au sein de l'Union européenne. Mais le plan Annan, fortement lié à ce souhait, est rejeté un mois avant l'adhésion formelle de 2004. Dans l'urgence, l'Union européenne est obligée de réagir et de demander à la Commission d'adapter le plus possible les traités européens à la situation extrêmement particulière de l'île de Chypre. En intégrant l'UE, la République de Chypre a rejeté tout simplement l'idée d'énosis, c'est-à-dire d'unification avec la Grèce, souvenez-vous des précédents numéros. Elle a dû rejeter cette idée puisque la Grèce y a aussi renoncé en votant pour l'adhésion de Chypre comme un État indépendant. Mais pourtant, le Taksim a persisté. L'idée de Chypre dans l'Union européenne donna un élan de réforme et de transformation. L'Europe a profité à Chypre, a fait avancer les négociations. À Crans-Montana l'année dernière, même certains sujets difficiles et tabous ont été résolus, alors qu'il y a 30 ans, une négociation n'était même pas envisageable. Chypre est un pays européen. Les effets sont encore faibles, certes difficilement perceptibles pour le moment, mais l'européanisation de Chypre fait son effet. Et par européanisation, j'entends ici l'utilisation des préceptes européens appliqués à Chypre pour dépasser le conflit, à la fois à travers un ensemble de normes, mais aussi de pratiques et d'institutions. L'Union européenne a contraint Chypre dans une position d'ouverture, dans sa volonté d'éviter la situation très complexe d'un partage illégal selon le droit international. Mais comme vous le savez, ce problème est encore loin d'être réglé. Mais la politique des petits pas de l'Union européenne s'applique parfaitement à Chypre. Les choses changent, c'est certain. Les Chypriotes turcs veulent être des citoyens européens à part entière. L'idéal européen est incompatible avec le nationalisme séparationniste des Chypriotes grecs. La frontière de Chypre est un exemple brûlant des effets de la fragmentation, de la séparation. C'est surtout, à mes yeux, un exemple de pourquoi on a besoin de l'Europe, de cette idée, de ses valeurs, et pourquoi ces valeurs européennes ne sont pas qu'un idéal trahi par des technocrates corrompus qui nous dirigent depuis Bruxelles. Il est facile de défendre une position faussement européiste centrée autour de nations parfaitement séparées, comme on a vu lors de cette dernière élection présidentielle en France. Mais Chypre est un exemple flagrant des complications et de la violence que ça engendre, de la violence que ça cache, et de la nécessité à dépasser le champ des armes, de dépasser le brouhaha nationaliste et surtout de briser les frontières, quelles qu'elles soient. S'il vous faut l'expérience de frontières physiques entre nations pour vous convaincre que nous vivons une chance inégalée en Europe, je vous invite à visiter Chypre. Si vous n'êtes pas convaincu qu'on risque de perdre tout ça et qu'on risque de revenir à ces sentiments de haine, de violence, de nationalisme et tout ce que ça engendre, eh bien, venez à Chypre et écoutez des gens qui vous parlent d'un conflit qui a eu lieu il y a deux générations et qui pourtant est encore brûlant dans leur mémoire au point qu'ils n'ont même pas confiance. Des Chypriotes grecs ne veulent même pas aller visiter le nord de Nicosie, ne sont même pas... sont inquiets d'aller dans un bar au nord avec des amis parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver, parce qu'ils imaginent qu'il y a des violences, etc. Et certes, il est vrai qu'il y a des violences, mais c'est surtout des violences des Chypriotes grecs extrêmement nationalistes contre des Chypriotes turcs qui visitent le sud. Du coup, je vous invite vraiment à visiter Chypre pour vous rendre compte de ce que c'est que le nationalisme, de ce que c'est que qu'entretenir un nationalisme, qu'entretenir cette idée de séparation, cette idée de « on est mieux chacun chez soi et on ne peut pas coopérer ». Et encore, aujourd'hui, ça a été nettement simplifié grâce à l'UE, surtout au niveau de la frontière physique, on peut passer comme on veut. Et sur ce, nous verrons une autre séparation la semaine prochaine, plus spirituelle cette fois. Mais surtout, bon baiser de chez Aphrodite.